grosses transformations secouent le monde. Crise sanitaire mondiale, digitalisation de notre société, montée en puissance de l'intelligence artificielle, révision des accords de libre-échange, fluctuations boursières, des transformations qui ont un impact direct sur votre quotidien. Torontois et Torontoises, pour vous permettre de mieux comprendre ces mouvances, la Radio Choc FM 105.1 vous propose un coup de phare quotidien sur l'actualité avec Tirne Soumaré. Écoutez Plein Feu Grand Toronto du lundi au vendredi de 8h à 9h sur Choc FM 105.1.
Brian Michaud, analyste politique de l'AFO, et Teshini Harrison, analyste politique de l'Ontario Non-Profit Network, ont eu à mener un sondage pour brosser un portrait global de la situation du secteur à but non lucratif de l'Ontario, que ce soit au niveau francophone, anglophone ou bilingue. Les données collectées du sondage avaient pour objectif de cerner en un point précis dans le temps l'impact de la pandémie sur les 58 000 organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance de l'Ontario et les vérifier l'efficacité des politiques et des mesures d'aide du gouvernement provincial et fédéral. Au total, 1131 organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance ontariens ont participé à ce sondage. Les données collectées démontrent que ces organismes continuent de s'adapter à l'incertitude économique et politique engendrée par la pandémie de la COVID-19. À ce sujet, nous avons M. Carole Jolin, président du conseil d'administration de l'AFO, qui était avec nous au téléphone.
Si les organismes à but non lucratif restent majoritairement en activité, plusieurs craignent de devoir fermer leurs portes d'ici la fin de l'année sans aide. C'est du moins ce qui ressort, entre autres, des résultats d'un sondage mené conjointement par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et Ontario Non-Profit Network pour connaître la situation du secteur non lucratif en Ontario 3 mois après le début de la crise. Les résultats ont été rendus publics le 18 août dernier. Rappelons que ce sondage a été mené entre les 16 et 28 juin. Plus de 1000 organisations à but non lucratif de toute la province y ont pris part. Pour en savoir plus, nous recevrons aujourd'hui M. Carole Jolin, le président du conseil d'administration de l'AFO. Bonjour, M. Jolin.
Bonjour.
Tout d'abord, procédons, si vous le voulez bien, à une mise en contexte pour nos auditeurs. Pourriez-vous, je vous prie, nous rappeler le mandat et la vision de l'AFO?
L'Assemblée de la francophonie a deux mandats. Un premier mandat d'agir à titre de rassembleur au niveau des organisations sans but lucratif. Et pour ça, on a quelques 150 organisations membres. Et le travail qu'on fait à l'Assemblée de la francophonie, c'est un travail de concertation pour rallier les organisations membres autour d'un même plan stratégique communautaire avec lequel on travaille. Ça, c'est un des deux mandats. Le deuxième, c'est un mandat politique de travailler pour défendre les droits, pour améliorer la situation des francophones en Ontario sur le plan politique. Et puis ça, ben, c'est particulièrement mon rôle à titre de président de l'Assemblée de la francophonie.
D'accord. Et justement, vous faites cela dans un ordre très spécifique. Pourriez-vous également, s'il vous plaît, nous rappeler les 7 dossiers prioritaires sur lesquels l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario travaille en ce moment?
Ben, le dossier prioritaire, comme c'est là, c'est... C'est celui qui découle de la pandémie, c'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné, on a participé à un troisième sondage qu'on a fait, mais celui, on l'a fait en partenariat avec Ontario Non-Profit Network. Et ce qu'il a révélé du côté des francophones, du côté des anglophones, d'ici les fêtes, s'il n'y a pas rien qui est fait, il y a 20% de leurs organisations qui sont appelées à disparaître. Du côté des francophones, notre financement n'est pas exactement le même puisqu'on reçoit des fonds de programmation de Patrimoine Canada Héritage, mais ça n'empêche pas qu'il y a 11% de nos organisations qui pourraient fermer leurs portes d'ici les fêtes s'il n'y a pas de l'argent supplémentaire qui est amené justement pour aider ces organisations-là. Et dans ce sens-là, bien, le dossier prioritaire qu'on a dans le moment, c'est de travailler avec les deux paliers de gouvernement pour leur demander de mettre sur pied un fonds d'indemnisation qui va faire en sorte que les organismes qui n'ont pas pu se classer dans les différents programmes gouvernementaux pourront avoir accès à des sommes d'argent pour être capables justement de survivre et de rester à flot. Parce qu'on dit d'ici les fêtes, mais si ça devait se prolonger, il y aurait plus encore d'organismes qui seraient appelés à disparaître. Et ça, ce serait une catastrophe pour la francophonie. parce que si on regarde les petits organismes qui assurent justement la vitalité de la francophonie dans des villages, dans des régions un petit peu moins denses, comme Ottawa ou Toronto, par exemple, mais à ce moment-là, si ces organismes-là sont appelés à disparaître, ça veut dire que le point de ralliement de la francophonie pour ce coin de pays-là n'existe plus, et ça, ben, c'est l'autoroute pour l'assimilation. Donc, il y a des dangers, évidemment, à ça. Et puis, il faut dire que plusieurs de nos organismes vont travailler avec le gouvernement et vont donner certains services gouvernementaux à travers leurs organismes. Et puis, d'autre part, on a plusieurs organismes qui ont démarré des entreprises sociales de toutes les sortes. Et donc, nos OBNL, nos organismes à but non lucratif, sont une force économique pour la province. Et c'est important à ce stade-ci que le gouvernement donne un coup de main aux organismes qui sont en danger.
Et d'ailleurs, quel est le poids économique des organismes sans but lucratif en Ontario?
Je regarde seulement du côté de l'emploi. On a quelques 300 organisations à but non lucratif en Ontario qui emploient du personnel. On parle d'environ 1500 personnes. Donc, c'est quand même un bon nombre de personnes et qui donnent des services qui peuvent s'agir de certains services gouvernementaux, par exemple au niveau de l'immigration. Le gouvernement ne donne pas de services directs. Ce sont les organisations financées par le gouvernement qui vont donner ces services-là. Donc, c'est important que ça puisse continuer parce que également notre succès en immigration francophone dépend de ça.
Et on a vu un peu plus tôt qu'au total, plus de 1000 organismes ont été sondés. Parmi combien d'organismes francophones comptent-ils concrètement?
Parmi tous les organismes qui ont été sondés, il y a 8,8% des organisations qui étaient francophones et 5,5% des organisations qui offraient des services bilingues.
Combien d'organismes est-ce que vous représentez au niveau de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario?
L'Assemblée de la francophonie a environ 150 organismes membres.
Est-ce que tous les organismes ont eu la chance quand même de participer au sondage?
Bien, je regarde les deux premiers sondages qu'on a eus. On a eu une très, très bonne réponse, puis ça nous a donné un portrait très précis de la situation que vivaient les organismes. Le troisième sondage avec Ontario Nonprofit Network était un petit peu plus imposant. On parle d'un sondage qui avait une cinquantaine de questions, mais qui nous ont donné un sondage qui nous a donné une très bonne vue, un très bon portrait de la situation en province et qui nous dit, par exemple, qu'en moyenne, les organismes ont perdu quelque 80 000 $. Leur budget va être moins élevé de 80 000 $ en moyenne. Donc, et ça, ben, ça va en fonction. On parle d'à peu près 20 % de baisse de budget par organisme. Et la moyenne, c'est 80 000 $. Donc, un petit organisme a peut-être pas perdu des sommes aussi imposantes, mais ça représente également 20 % de son budget. Et il faut noter également qu'il y a une baisse de participation importante au niveau du bénévolat, parce que beaucoup de bénévoles auprès des organismes à but non lucratif, ce sont des gens qui sont à la retraite. Et avec la COVID, ces gens-là étaient plus à risque. Et puis, donc, ça a affecté le bénévolat dans les organisations de façon significative.
Avant de regarder un peu plus près les résultats du sondage, très brièvement, quelle a été votre réaction et celle de la communauté suivant la publication des résultats?
Bien, on n'a pas été tellement surpris parce que c'était dans la même ligne que ce qu'on avait fait avant comme sondage. Et le fait de travailler avec Ontario Nonprofit Network, ça nous a dit également qu'on est tous dans le même bateau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de points qui sont similaires en fait de baisse de budget, en fait de défis pour les organisations. Pour plusieurs organisations, on parlait d'un tiers des organisations, ça avait représenté du travail supplémentaire alors qu'ils ont coupé du personnel. Donc, encore l'idée de faire plus avec moins. On a retrouvé ça sur un tiers de nos organisations se sont retrouvées dans cette situation-là. Donc, ça a été assez difficile, il va sans dire. Mais maintenant, on travaille avec, une fois qu'on a établi les résultats du sondage, ben, on travaille avec les recommandations qui sont issues de ce sondage-là. Et c'est sur ça que l'Assemblée de la francophonie et ONN se consacrent présentement.
y a quand même une certaine convergence au niveau des besoins et des défis auxquels font face et les organismes francophones et les organismes anglophones. Mais concrètement, est-ce qu'il y aurait des différences aussi en matière des besoins des deux types d'organismes? Est-ce qu'éventuellement, il y a certains besoins qui se font ressentir davantage du côté des organismes francophones post-COVID-19?
C'est très similaire et ce qui fait qu'on travaille ensemble au niveau des deux paliers de gouvernement pour qu'ils mettent ensemble justement un fonds de stabilisation pour les OBNL. Et l'ONN a établi les besoins de toutes les organisations à 680 millions de dollars. Et puis on est en train de regarder de notre côté, du côté de la francophonie, qu'est-ce qui est déjà là. Et qu'est-ce qui nous manque, parce qu'il y a un programme gouvernemental qu'on veut évaluer justement le mandat de ce programme-là et voir de quelle façon il rejoint nos organisations avant d'arriver avec un chiffre définitif pour la francophonie. Mais c'est avec ce chiffre-là qu'on est en train de travailler présentement, là, qu'on va faire le lobbying au niveau des deux paliers de gouvernement pour s'assurer qu'ils sont bien conscients de la situation et des besoins de nos organismes à but non lucratif du côté de la francophonie.
Justement, un des défis soulignés dans le rapport est le fait qu'au cours des trois derniers mois, les OBNL francophones ou anglophones ont dû à la fois puiser dans leur fonds de réserve. Et je dis que, en fait, selon le rapport, c'est le cas pour 35% des organismes sondés. 22% des organismes sondés auraient aussi fait des compressions salariales, mais on va y revenir. Et comment est-ce que, justement, le fait qu'ils aient puiser dans leur fonds de réserve, influer sur leur chance d'obtenir du financement dans le cadre de subventions, en tenant compte du fait que beaucoup en sont lourdement tributaires?
Ben, pour un, il ne faut pas se leurrer. La question de fonds de réserve, ce n'était pas des sommes phénoménales qui étaient dans ces fonds de réserve-là. Pour les organisations qui avaient le plaisir d'en avoir un, je peux vous dire qu'il a disparu très, très rapidement devant les besoins. Et puis, les organismes ont dû faire des mises à pied massives pour être capables simplement de survivre parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se classer pour le programme de subvention canadienne d'urgence à l'emploi. Où est-ce que, on sait, le gouvernement finançait 75% du salaire des employés et l'organisme devait financer 25%, le 25% qui restait. Et puis, la très, très grande majorité des organismes ne pouvaient simplement pas financer le 25% qui restait. Donc, la plupart de nos organismes ne cadraient pas dans ce programme-là, de sorte que le travail qu'on fait, en fait de lobbying, c'est qu'on voudrait voir des critères plus souples pour les organismes à but non lucratif, parce qu'ils ne peuvent pas se classer, tout simplement. Et ça résulte des mises à pied, ça résulte des baisses de services. Dans des cas, les organismes ont simplement fermé boutique jusqu'à temps que les choses se classent un petit peu.
Ouais, donc, quelque part, il faut concilier deux impératifs. D'une part, l'importance d'aider les organismes qui sont en difficulté en raison de la crise, notamment la difficulté financière, mais d'autre part aussi, assurer une gestion responsable des fonds publics. Car, par exemple, un des critères généralement qui est utilisé pour déterminer ou non si une subvention sera remise à un organisme, c'est la stabilité, la santé financière de cet organisme. Donc, comment est-ce que les prochains programmes de financement qui seront potentiellement mis sur pied pour aider ces organismes seraient différents par rapport à ce critère d'évaluation?
Bien, pour un, les organismes qui nous organisent pour la très, très grande majorité, reçoivent du financement de programmation de patrimoine canadien héritage. Donc, ce sont des organismes qui sont connus, qui doivent soumettre un plan de programmation, ce qui fait qu'ils sont bien connus du milieu fédéral. Donc, dans ce sens-là, c'est que pour être capable de continuer dans cette voie-là, vont rechercher à avoir des sommes du fonds de stabilisation. Nous, on travaille pour avoir un fonds de stabilisation, premièrement. Et de ça, question de gestion, ces organismes-là ont des conseils d'administration qui sont redevables. Donc, ce n'est pas des décisions qui sont prises par une ou deux personnes. C'est un conseil d'administration qui est monté en bonne et due forme et qui doit veiller à la bonne gestion de l'organisme.
Selon le rapport, plus de 3 sur 10 des ONBL qui ont été sondés ont dû licencier carrément du personnel. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils arrivent quand même à maintenir les opérations avec des effectifs limités et réduits?
Bien, ce sont des opérations de base. Le personnel qui a été, qui a été licencié, mis à pied, soit de façon temporaire ou soit de façon permanente, parce que ça aussi, c'est une autre question. Mais pour un, c'est que plusieurs de nos organisations, surtout les plus grosses, avaient démarré des entreprises sociales pour être capable de, un, d'offrir des services, et deux, à travers ça, de recueillir davantage d'argent pour pouvoir financer d'autres projets. Par exemple, on parle de garderies, on parle de camps d'été, on parle de festivals de toutes les sortes qui étaient organisés et qui agissaient également comme prélèvement de fonds. De radio communautaire, si je pense à l'Atelier de la Baie dans la région de Pénétang, la radio communautaire est sous le joug de l'organisme de l'Atelier. Donc, dans ce sens-là, ne pouvant pas offrir de camp d'été, ne pouvant pas offrir de garderie, un organisme comme l'Atelier a dû procéder à 32 mises à pied. Et puis, de sorte que il y a un travail de base qui se fait encore au niveau du bureau de l'Atelier, mais ces services-là ne sont plus offerts et on a dû licencier les gens.
Et toujours suivant le rapport, je cite, « Les mesures de soutien des gouvernements fédéral et provincial n'ont pas bien tenu compte de l'importance, de l'ampleur et de l'impact économique du secteur sans but lucratif et sont loin de fournir l'aide dont les organismes à but non lucratif ont besoin pour affronter la crise et entamer la relance. » Donc, fin de la citation. En quoi est-ce que les programmes du gouvernement ne répondent pas aux réalités des OBNL suivant la pandémie?
Les critères qui étaient là, j'ai parlé tantôt du programme de subvention canadienne d'urgence à l'emploi, les critères qui établis faisaient en sorte que la très, très grande majorité de nos organisations ne pouvaient pas entrer dans les critères pour pouvoir obtenir des sous. Donc, de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Donc, pour nous, notre travail, c'est de sensibiliser les paliers de gouvernement à la réalité de nos organisations. Et comme je l'ai mentionné, on travaille pour faire en sorte que le gouvernement mette de l'avant un plan de stabilisation. On a l'écoute du gouvernement. Ils nous disent qu'est-ce qu'on veut faire, c'est justement aider les organisations qui ne pouvaient pas se classer dans les programmes de subvention qui existaient. Donc, l'expression s'est tombée, c'était vraiment de pouvoir aider les organismes qui tombaient dans les cracks du financement provincial et fédéral. Et c'est ce que nous, on continue de travailler sur le plan du lobbying. Moi, j'ai une liste de députés et de ministres au niveau provincial et fédéral que j'ai le mandat de rejoindre. J'ai déjà commencé cette tâche-là avec les recommandations et les résultats du sondage et de travailler pour, un, qu'ils comprennent bien la situation et, d'autre part, qui fassent des pressions pour que, justement, le fonds d'indemnisation soit mis sur pied.
D'accord. Et du côté du secteur privé, donc, parlons plutôt des banques. Comment est-ce que les banques réagissent face à cette donne? Donc, on a vu que, par exemple, les organismes ont dû puiser dans leur fonds de réserve, leur marge de crédit, par exemple. Comment est-ce que les banques réagissent à ces donnes? Et est-ce que, éventuellement, vous faites aussi du lobbying pour qu'il y ait des programmes qui financent les banques pour qu'en échange, les banques puissent aussi être assez flexibles?
J'ai pas d'informations par rapport à ce qui s'est passé du côté des finances et de la possibilité de comment les organismes ont pu travailler avec les banques. Je n'ai pas d'informations à cet effet-là.
D'accord. Aussi, un élément qui m'a beaucoup frappé au fait dans le rapport, c'est que 10% des organismes sondés ont indiqué avoir utilisé des fonds personnels pour répondre aux besoins financiers de leurs organismes. Comment est-ce que vous réagissez face à ces résultats, à cette réalité?
Bien, on a eu une rencontre en début de semaine avec les responsables d'Ontario Nonprofit Network et on était tous extrêmement surpris de ce pourcentage-là. Ça vous donne une idée jusqu'à quel point, justement, les gens sont résilients et passionnés et ils veulent que l'organisme continue de survivre. Et puis, il y a une personne qui relatait qu'elle parlait à la présidente directrice générale de ONN et puis disait qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai complètement rempli ma carte de crédit pour être capable de maintenir la banque de nourriture à flot. Donc, c'est assez exceptionnel de voir ce que les actions que les gens ont posées comme ça, justement, pour être capable de répondre à un besoin qui était flagrant et désespéré probablement dans certains cas. Et puis, ça donne une idée de jusqu'à quel point les gens qui sont impliqués dans les organismes à but non lucratif, ils veulent que ça fonctionne, quitte à mettre de leur argent personnel. Moi, j'ai été extrêmement surpris. Et donc, pour un, c'était de voir jusqu'à quel point ces gens-là sont impliqués. Et puis, ils veulent que ça fonctionne malgré une situation extrêmement difficile, jusqu'à un point de mettre de leur argent personnel. Déjà qu'il y a beaucoup de temps que ces gens-là investissent, de mettre de leur argent personnel pour que, justement, ils puissent continuer à offrir des services. Puis dans le cadre d'une banque de nourriture, bien, c'est assez exceptionnel, justement, parce que la banque de nourriture vient en aide, justement, aux gens qui sont les plus dépourvus.
Et d'ailleurs, il y a quand même, de l'autre côté de la médaille, il y a certains observateurs qui estiment qu'il y aurait trop d'organismes francophones présentement. Que pensez-vous de ce postulat?
Ben, je suis pas d'accord que du postulat. Premièrement, on a quelques 744 000 franco-ontariennes et franco-ontariens. On parle d'une population de 1,5 million de personnes qui parlent français et on continue de croître. Et avec la croissance, c'est normal que d'autres genres d'organismes soient mis sur pied. Et puis, nous, on encourage ça parce qu'à chaque fois qu'on a un organisme qui est mis sur pied, ça veut dire que il y a des francophones qui vont pouvoir travailler et vivre autour de cet organisme-là et faire en sorte, justement, de vivre leur francophonie.
D'accord. Donc, en attendant qu'il y ait justement des financements disponibles pour aider les organismes à se reprendre, est-ce que le monde associatif francophone devra, selon vous, se restructurer et même se recomposer pour assurer leur survie? Par exemple, est-ce que des opérations de fusion, d'acquisition seront en perspective dans les six prochains mois, selon vous?
Ben ça, c'est toujours un facteur qui était là, des possibilités de fusion. Et on l'a vu dans le passé, par exemple, lorsqu'il y avait certains organismes qui éprouvaient des difficultés financières, qui se sont fusionnés justement pour pouvoir partager des coûts. Et puis ça s'est déjà fait dans le passé. Ça va continuer à se faire. C'est possible que la pandémie accélère certaines décisions que des dirigeants puissent avoir à prendre, ou encore de faire en sorte qu'ils vont mieux travailler ensemble pour partager des services, sans nécessairement fusionner, mais de faire en sorte que, plutôt qu'individuellement, avoir un service quelconque, mais à ce moment-là, on va voir si on peut le faire ensemble, de sorte que les coûts sont moins élevés. Je prends par exemple simplement le service de la paix, la question des finances. Donc, il y a des organismes déjà qui partagent des services à ce niveau-là, puis je pense que ça va continuer à aller. Maintenant, du côté de l'adaptabilité, bien, je crois que la question du télétravail est là pour rester. Les organismes, pour plusieurs, ont dû apprendre très rapidement à travailler en télétravail et ont trouvé une certaine façon qui leur était utile et qui peut éviter des déplacements et des coûts. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut tout faire en télétravail, mais de sorte qu'il va pouvoir y avoir, je pense, dans le futur, un partage entre le moment où on se retrouve en tête-à-tête versus le moment où les gens peuvent travailler de la maison ou en Zoom ou en Google Meet ou peu importe le programme. Donc, je pense que la pandémie va changer la façon de travailler, non seulement au niveau des organismes à but non lucratif, mais également sur le plan des affaires, on le voit déjà. Et si vous avez le plaisir de lire la revue Actualité de ce mois-ci, le grand reportage est consacré à l'impact que le télétravail va avoir sur la façon que les gens d'affaires et les organismes travaillent.
Oui, au-delà de l'aspect économique, le rapport fait aussi état d'autres effets au fait de la crise. Je cite comme un passage qui dit ceci. Donc, à cette pression s'ajoutent les besoins en matière de santé mentale liés à la COVID, la hausse de la violence conjugale et la prise de conscience grandissante du fait que les groupes marginalisés, notamment les ménages à faible revenu et les communautés racialisées, ont subi les effets de la crise de façon disproportionnée. Fin de la citation. Comment est-ce que la FAO propose d'appuyer justement particulièrement ces communautés vulnérables?
Pour nous, à ce moment-là, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des programmes de la FAO comme tel. Mm-hmm. Donc, au niveau sur le plan informatif avec nos organisations et également le travail qu'on fait auprès des paliers de gouvernement pour les sensibiliser à la situation. Et puis, je pense... Je viens d'avoir ma réunion avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes, donc l'organisme national qui regroupe dont la FAO fait partie. Et puis, la question du, euh, La question de la lutte contre le racisme fait partie évidemment des discussions qu'on a. Et également, je parlais avec une représentante d'un organisme national pour les femmes qui disait que pendant la pandémie, le nombre d'agressions avait augmenté de 30 %. Donc, le nombre d'appels et d'agressions qu'ils recevaient, le nombre d'appels qu'ils recevaient sur leur ligne avait monté de 30 %. Donc, c'est un facteur qui est extrêmement préoccupant et que nos paliers de gouvernement vont devoir adresser. Il y a déjà des sous qui ont été versés pour être capable de mieux donner les services, mais c'est vraiment pas assez. Et puis, on n'a pas encore le portrait véritable de cette situation-là. On sait que ça existe. On sait qu'il y a beaucoup de qu'il y a eu beaucoup plus de demandes ou d'appels dans les lignes ouvertes, mais on n'est vraiment pas sorti du bois à cet effet-là. Et les gouvernements vont devoir investir et garantir et mettre sur pied plus de services, justement, pour venir en aide à ces gens-là.
Mais il faudra quand même hiérarchiser, au fait, les priorités, n'est-ce pas? Donc, quelle serait comme une bonne façon d'établir une hiérarchie au niveau des priorités en matière de dépenses des fonds publics?
Bien, dans le moment, nous autres, ce qui est important, c'est d'assurer la survie des organisations. C'est notre préoccupation la plus grande et c'est sur ça qu'on consacre notre énergie à partir des résultats du dernier sondage qu'on a fait passer. Et il y a quelques autres points sur lesquels on veut sensibiliser le gouvernement. Et puis là, je pense que ça vient de toutes parts. Par exemple, l'importance de connecter tout le pays, et non seulement l'Ontario, mais tout le pays, à l'Internet haute vitesse de qualité, parce que la question de l'Internet, ce n'est plus une question de... C'est rendu un service essentiel. C'est aussi simple que ça. Donc, si on veut... Si on parle de télétravail, si on parle de communication, il faut être capable de le faire d'un bout à l'autre du pays de façon efficace. Et puis, on l'a vu pendant la pandémie. On a alors que le gouvernement publie ses points de presse sur YouTube, la problématique qu'on avait, c'est que, on a réussi à faire en sorte que le point de presse qu'il y ait une traduction simultanée. Mais le problème, c'est qu'il y a bien des endroits en province où les gens ont une pauvre réception de l'Internet ou n'en ont pas du tout. Donc, dans ce sens-là, c'est important que tout le monde puisse se connecter pour avoir l'information. Donc, on était à la merci de Radio-Canada et malheureusement, Radio-Canada a refusé d'un bout à l'autre de diffuser les points de presse avec la traduction simultanée. De sorte qu'il y a un député du Nord qui me disait, ben moi, mes gens qui sont francophones, tout ce qu'ils peuvent prendre, c'est le point de presse du gouvernement du Québec, qui est à Radio-Canada. Donc, ils connaissent très bien la situation au Québec, mais ils ne savent pas ce qui se passe en Ontario.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place, au fait, avec les radios communautaires, par exemple, pour aider...
Les radios communautaires ont fait ce travail-là, Dieu merci, pour là où il y a des radios communautaires. Ils ont fait ce travail-là justement de lien parce qu'il y avait un vide énorme à combler. Maintenant, le CRTC tient ses audiences pour le renouvellement de la licence de Radio-Canada en janvier 2021 et je peux vous promettre que nous allons être là.
Quelles seraient les prochaines étapes pour l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de présenter les résultats du sondage de façon approfondie aux dirigeants politiques? Et si oui, pourriez-vous faire un survol des recommandations que vous avez formulées?
Bon, on a déjà commencé ce travail-là. Et puis, ONN le fait également. Et puis, ONN est une grosse machine aussi qui est bien branchée sur le plan politique. Et puis, c'est important, justement, je dirais priorité numéro un, de la mise sur pied du fonds de stabilisation. J'en ai parlé à quelques reprises. C'est une question de non seulement de survie pour les organisations, mais pour nous de préservation du milieu francophone et de s'assurer justement que ces organisations-là puissent continuer à travailler pour prévenir une assimilation qui est toujours dangereuse à nos portes. Ensuite, on a demandé au gouvernement d'assouplir ces critères pour la subvention canadienne d'urgence à l'emploi pour que les OBNL puissent se qualifier pour être capables d'avoir de l'aide de ce côté-là. On a demandé l'Internet d'un bout à l'autre du pays. Comme j'ai mentionné, il s'agit maintenant d'un service essentiel et le gouvernement doit s'activer. Je sais que il y avait un plan de 5 ans pour ça, mais là, 5 ans, c'est trop loin. Il faut définitivement qu'il y ait du travail qui soit fait à ce niveau-là. Et on me dit qu'il y a une annonce éminente du gouvernement, de la ministre qui s'occupe du dossier au niveau fédéral. Donc, j'espère que les nouvelles vont être bonnes et qu'on va accélérer le processus. Et puis, pour un, c'est de travailler au provincial, c'est de travailler à améliorer la paix de pandémie et limiter le plus possible le fardeau administratif. Et du côté de ce qu'on demande aux deux paliers de gouvernement, c'est la création d'un comité aviseur pour les organismes à but non lucratif pour faire en sorte qu'on puisse siéger à des tables avec les représentants, avec les élus. On a une expertise à partager aux deux paliers de gouvernement pour bien leur faire comprendre ce qui se passe dans le milieu et l'importance d'agir et d'agir rapidement.
Absolument. Et pour finir, est-ce que vous auriez, M. Jolin, un mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices de Choc FM?
Pour vous dire que notre organisme travaille très fort avec les gens de Wenan. On était déjà organisé pour pouvoir travailler en télétravail, le bureau de la FAO. Donc, le travail s'est poursuivi. On continue de travailler avec les organisations. Aujourd'hui, on vient de lancer la quatrième partie d'un programme qui s'appelle Effet multiplicateur. Donc, Effet multiplicateur, c'est un programme qui permet aux organismes de faire une demande de fonds qui peut varier de 5 000 $ à 25 000 $ et qui peut être utilisé jusqu'à sur une période de 18 mois. Et pour ça, ben, c'est pour permettre aux organisations qui ont des programmes innovateurs, qui ont des services, qui ont des orientations, une évaluation qu'ils voudraient faire de leurs services, etc., etc. C'est très, très large comme possibilité. Mais la quatrième période, on a 160 et 150 000 $ qui va être distribué. Et ça, il ne s'agit pas de prêt, il s'agit d'argent que les organismes peuvent utiliser pour aller de l'avant avec toutes sortes de projets. Et en temps de pandémie, bien, je pense que déjà, on avait énormément de projets qui étaient soumis. Et les organisations qui avaient soumis des projets, que les projets ont été refusés, peuvent resoumettre leurs projets. Et puis jusqu'ici, à travers les trois phases, on a distribué quelques 728 000 $. Il y a 51 organismes qui ont été acceptés avec différents projets. Et il y a plus de 100 organismes qui y ont participé parce qu'il y avait des partenariats qui s'établissaient entre différents organismes. Donc, ce sont des projets comme ça qu'on avait déjà mis, sur lesquels on avait déjà été chercher des sous. On parle d'un projet de 3 ans où est-ce qu'on retrouve 1,2 million de dollars et puis qui aide les organisations et des emplois qui sont créés à ce moment-là, mais on espère qu'ils vont pouvoir devenir permanents avec le temps. Mais c'est un petit peu une idée du travail que l'Assemblée de la francophonie fait. Et on a travaillé avec FEDDEV également, qui est un organisme fédéral. Et puis, on a pu aller chercher, ça a été publié d'ailleurs, c'est public, il y a 4,5 millions de $ qui ont été dirigés vers les organismes à but non lucratif pour différents aspects. Il y a 1,5 million qui va du côté économique, qui est administré par un organisme ici dans l'Est. La FAO administre 1,5 million et on n'a toujours pas l'argent en main, là, je vous dis, mais on est en train de déterminer les critères qui vont être justement pour aider les organismes. Et le programme d'activité franco-ontarien du ministère des Affaires francophones, qui est d'un million de $, a été devancé et cette année, il va servir justement pour aider les organisations avec la COVID. Et ce programme-là est ouvert du côté des organismes à but non lucratif et des organismes privés francophones. Donc, il y a des choses qui bougent. Mais les besoins sont encore énormes et puis nous, on continue à travailler pour être capable d'aller chercher des sous supplémentaires pour nos organismes.
Enfin, merci pour cet éclairage, Monsieur Jolin.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Cette série originale de Choc FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.